téléphone, on a Antoine Perrault, qui est directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Et on va, avec lui, on va faire le point sur différents dossiers en lien avec la pandémie et avec l'accès à l'information. Bonjour Antoine.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. De manière générale, là, depuis on s'était parlé de ce sujet-là au printemps, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration dans le sens où, du côté du gouvernement, par exemple, est-ce qu'on pense un petit peu plus en amont à rendre les choses accessibles?
De plus en plus, je vous dirais. C'est pas encore parfait, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais au moins, on a une meilleure écoute et on a des entrées plus directes pour faire améliorer les choses.
Mais il faut continuer de veiller au grain, disons.
Tout à fait. C'est ce qu'on fait et qu'on n'arrête pas de faire.
Et justement, en ce moment, vous menez une enquête auprès des utilisateurs pour savoir si l'application COVID est accessible.
Oui.
Est-ce que vous avez commencé à obtenir des réponses?
Oui, on a obtenu plusieurs réponses. Je peux vous dire que l'application, elle est, selon ce que je peux voir qui se dégage pour l'instant des résultats, relativement accessible. Je pense que le besoin que les gens auraient, puis c'est ce qu'on va probablement amener au gouvernement, c'est du support pour bien comprendre l'application, faire à quoi et bien comprendre comment l'utiliser. Ceci étant dit, ce que je peux voir pour l'instant des résultats, le téléchargement et la navigation sont accessibles. Malheureusement, on n'a pas pu avoir... Heureusement, en fait, je peux dire, on n'a pas pu avoir de précision sur est-ce que l'utilisation de la clé qui nous donne quand on a un test positif est accessible, parce qu'il n'y a aucune personne qui a répondu qui n'a eu un diagnostic positif de COVID, ce qui est une très bonne chose.
Oui, oui, c'est ça.
Mais dès qu'on va avoir plus d'informations par rapport à ça, on va aller de l'avant avec des recommandations au niveau du gouvernement.
C'est ça, il faudra avoir une façon de tester qui n'implique pas que quelqu'un soit malade.
Bien, on va travailler aussi à avoir ça en amont, là, idéalement.
J'ai aussi vu que vous aviez contacté la ministre de la Culture pour que le service québécois du livre adapté soit considéré comme un service essentiel. Il avait été interrompu au printemps. En ce moment, est-ce qu'on sait s'il est encore?
Non, pour l'instant, il n'est pas interrompu. Il fonctionne encore parce que les employés de BANQ peuvent avoir accès à leur bureau. Donc, tout ce qui est service d'envoi du SQLA fonctionne. Ceci étant dit, nous, ce qu'on veut éviter, c'est que si on essaie de travailler à long terme, s'il y a un deuxième reconfinement général qui a lieu et que les employés de BANQ n'ont plus accès à leur bureau, on veut quand même que ce soit considéré comme un service essentiel de SQLA. Puis c'est en ce sens-là qu'on fait des représentations auprès du gouvernement en ce moment-là.
Parce qu'au printemps dernier, alors que les utilisateurs de livres réguliers ou de livres électroniques réguliers pouvaient continuer à emprunter à distance, mais les personnes qui avaient besoin du livre audio n'avaient pas d'alternative.
Bien, faut faire attention. En fait, de ce que moi j'en sais, les personnes qui pouvaient utiliser les services de location électronique, c'est-à-dire télécharger des formats électroniques de livres, pouvaient continuer à le faire. Ceci étant dit, il n'y avait aucun employé de BANQ qui avait accès à leur bureau. C'est pour ça que les utilisateurs de SQLA n'avaient pas accès à l'envoi de documents puis de livres par la poste, parce que les employés n'étaient pas physiquement sur place.
Donc, c'est pour ceux qui utilisent encore le lecteur Victor avec CD?
Oui, ou les livres directement. Là.
OK. Ah, OK. Oui, je comprends. Là. On parlait justement avant la pause d'éducation à distance avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des retours? Comment ça se passe au cégep à l'université, par exemple, pour l'accessibilité des cours?
Bien, c'est sûr que puis là, c'est très complexe comme dossier. Nous, on est en attente d'une rencontre avec le ministère de l'Éducation pour en discuter avec lui. On l'avait déjà fait par le passé, puis là, on veut continuer nos discussions parce que ça va beaucoup dépendre de la plateforme que le professeur va décider d'utiliser pour donner ses cours à distance. Ça va beaucoup dépendre de la plateforme que le professeur va utiliser pour diffuser son information et sa matière plus au niveau papier, là, sans en dire papier, tout ce qui est électronique, tout ce qui est document d'information. Puis c'est pour ça qu'on veut discuter avec le ministère, parce qu'il faut absolument que le message qui vienne du ministère, ce soit les plateformes doivent être accessibles tant au niveau de la diffusion du cours que de la diffusion de l'information.
Par exemple, si le prof prévoit des PDF, des choses comme ça?
Bien, si c'est des PDF, ça doit être des PDF accessibles. Idéalement, en format accessible directement, là, du Word, c'est plus simple, mais au-delà de tout ça, de penser à si les étudiants ont besoin de livres supplémentaires qui n'étaient pas prévus, Par exemple, pour pallier à une absence en personne, ben, il faut que ces livres-là soient aussi disponibles en format alternatif ou qu'ils puissent se faire mettre en format alternatif. Il y a des délais. Fait qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération aussi. Là. C'est pour ça qu'on veut rencontrer le ministère.
Surtout quand on considère, on en avait discuté avec INCA, que même en temps normal, il y avait parfois des retards pour les manuels.
Oui, ben c'est ça. Déjà, c'est pas simple d'avoir ces manuels en format adapté. Là, si on rajoute qu'il y a de plus en plus de gens à distance, c'est quoi les mesures que les professeurs vont prendre? Il faut qu'il y ait des directives claires qui viennent du ministère de l'Éducation. Je pense que le milieu scolaire en réclame depuis très longtemps. Faut pas penser que ça se limite au primaire, au secondaire. Faut penser aussi au cégep, à l'université. Mais même au primaire, au secondaire, c'est des choses qu'on va rencontrer là, avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation. C'est sûr que les étudiants vont être amenés à étudier de plus en plus à distance. Faut que ça se fasse de manière accessible.
Au printemps, on avait beaucoup parlé de la question de l'accompagnement qui parfois posait problème là, avec les règles de distanciation. Est-ce que ça a été réglé, ça, le fait qu'il y a des exceptions qui existent?
Ça l'a été réglé dans une certaine mesure. Nous, puis en fait, faut pas oublier que dans l'absolu, quand on regarde les décrets, ça n'a jamais été un enjeu. Au sens où ça le dit très clairement dans le décret que pour l'accompagnement, compte tenu que c'est une personne qui reçoit d'une autre personne un service ou son soutien, ça n'a jamais été interdit. Et ça, on l'a clarifié avec la santé publique très rapidement. Sur notre site web, il y a une copie de la lettre qu'on a reçue du Dr Arruda en réponse à nos demandes. Ceci étant dit, je pense qu'il y avait un gros enjeu au niveau de la compréhension sur le terrain.
De ceux qui appliquent la loi.
Ça peut être autant de ceux qui appliquent la loi que faut pas oublier que c'est pas uniquement une question d'appliquer la loi. À une époque, il y a eu des commerces qui comprenaient que tu rentrais à une personne, peu importe la situation. Et là, ben, il y a des personnes qui ont pu avoir refusé l'accès à un commerce parce qu'il y avait un accompagnateur ou une accompagnatrice. C'était vraiment pas uniquement au niveau de l'application de la loi, c'est au niveau de la compréhension sociale du rôle que pouvait avoir un accompagnateur. Donc, c'est sûr que la santé publique nous l'a clairement indiqué dans une lettre. On demandait aussi des précisions sur comment est-ce qu'on peut accompagner de manière sécuritaire. On en a eu quelques-unes, mais c'est sûr que c'est un dossier qui est loin d'être fini, parce que maintenant qu'on a des documents plus officiels qui précisent, ben c'est sûr qu'il faut passer à l'étape sensibilisation. Pour l'instant, on est chanceux et on touche du bois. Dans l'absolu, il n'y a pas eu encore de réaffirmation d'une seule personne par commerce dans bien des endroits. Mais il faut rester vigilant là-dessus. Là.
Et pour ce qui est des règles de confinement là, de cette deuxième vague, on voit qu'il y a eu beaucoup de... On était sensible cette fois-ci à mettre des exceptions pour les gens habitant seuls. Est-ce que ça couvre bien les besoins, par exemple, d'une personne qui a un handicap visuel et qui habite seule et qui a besoin que quelqu'un vienne lui, par exemple, pour le ménage ou des choses comme ça?
Bien, c'est qu'il faut faire attention. Au mieux de ma compréhension, cette norme-là, c'est vraiment beaucoup pour les personnes qui habitent seules et qui veulent recevoir de la compagnie. Tout ce qui est soutien, ça revient à dire que le soutien offert par une personne à une autre personne n'est pas compris dans le décret, dans l'interdiction. Donc, une personne qui vient chez l'autre personne pour faire son ménage parce qu'elle en a besoin, une personne qui va faire l'épicerie avec ou pour une personne, c'est toutes des choses qui ne sont pas comprises dans l'interdiction.
OK. Donc, de ce côté-là, ça va bien.
le décret le dit très, très clairement. Sauf si une personne reçoit d'une autre personne un service ou un besoin. Un service ou un soutien, pardon.
Oui, voilà.
Pour ça, on est correct.
Est-ce qu'il y a d'autres dossiers que vous avez à l'œil présentement, que vous gardez de près?
Bien, plusieurs dossiers. Je vous dirais que pour l'instant, on est aussi à tout ce qui est accès à l'information reste extrêmement important. Que ce soit, on en parlait un peu là, au niveau des informations, de l'éducation, des fournitures scolaires, mais aussi tout ce que le gouvernement envoie comme information, c'est extrêmement important que ça soit accessible. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des lacunes. Si on prend le guide d'auto-soins, par exemple, on se rappellera que ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'interventions de la part du RAC pour obtenir des versions accessibles et des versions alternatives aussi de ce document-là. Puis il y a encore des documents qui sont produits et qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas fournis en format alternatif. Fait qu'on continue ce combat-là aussi, là.
Ben, on vous souhaite que ces choses-là se règlent rapidement et qu'il n'y ait pas trop, de nouveaux obstacles qui se mettent, et que peut-être que cette COVID-là soit, au bout du compte, soit une occasion d'avoir sensibilisé davantage, peut-être, sur l'importance de l'accès à l'information.
Ben, on espère. C'est sûr que c'est dommage si le constat qu'on fait, c'est que ça prend une pandémie pour que le gouvernement réalise que quand il fait de l'information, il faut que ce soit accessible à toutes et à tous. Mais si ça peut ressortir, tant mieux.
Ben, Antoine Perrault, directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Excusez-moi, j'ai failli vous changer d'organisme. J'étais partie sur un élan. Ben, merci beaucoup, puis on continue de garder contact et de se tenir au courant.
Ben, un gros merci. Passez une bonne fin de journée.
Merci beaucoup.